Et c'est sûr que quand on arrive à la fin de l'année, on va parler de l'année qui vient. Et c'est vrai que je voulais parler aussi, moi, du futur, de l'année à venir. Et un peu de tout ce que tu as partagé, l'espérance. Peut-être que j'aurais voulu que, comme on vient de le chanter, on se souvienne intensément au moment où on commence une nouvelle période, que notre espérance, justement, elle dépend non pas de nous, mais de ce que nous venons de chanter. Mon nom est gravé sur ta main. Mon nom est gravé sur ta main. En Jésus, ma vie est cachée. Lui, mon Seigneur, mon Sauveur. C'est de ça que dépend notre espérance. Je voudrais que ce matin, on partage cela aussi avec un autre texte parmi les textes que Simon a cités qui nous parle de la grandeur de Dieu. Mais avant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, c'est vrai qu'à l'aube d'une année nouvelle, nous venons encore devant ta face, Seigneur. Et nous venons implorer encore ta grâce, tes promesses, Seigneur. Nous venons les implorer tout en sachant qu'elles dépendent non de nous, mais de toi, Seigneur. Nous venons nous approcher ce matin devant toi pour que ces paroles extraordinaires que nous lisons, ces paroles d'espérance extraordinaires que nous entendons, nous puissions, Seigneur, les loger au plus profond de notre cœur. Que ce ne soient pas des paroles intellectuellement acquises, des paroles auxquelles nous croyons intellectuellement, mais que ce soient des paroles qui soient au plus profond de notre cœur, le siège de nos pensées, le siège de nos sentiments, le siège de nos émotions, le siège de nos décisions. Ô Seigneur, ce matin, visite-nous et rends vivantes ces paroles dans notre cœur pour que nous les vivions véritablement dans les jours qui viennent. Dans l'année qui vient, Seigneur. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous, chacune des familles que nous représentons ici, chacun de ceux que nous aimons. Amen. Et je voudrais pour ça que nous lisions deux versets dans la fin d'une épître, enfin une épître, une lettre, la lettre de Jude. Et vous savez qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans la lettre de Jude, et à la fin de cette lettre, il y a les deux derniers versets, le verset 24 et le verset 25. Donc moi j'ai un petit décalage, peut-être mettre le 23. Ouais. Mais non, je n'ai pas de décalage, donc on va commencer à 24, c'est très bien. On lit 24, 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, soit la majesté, soit la force et la puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. À quelque chose qu'on pourrait presque lire à la fin de chaque culte. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Je ne sais pas quelle est votre crainte, je vais dire chrétienne. Je ne parle pas de la crainte des problèmes, des soucis de la vie. Je ne parle pas de la crainte d'un enfant qu'on a difficile à gérer. Je ne parle pas d'un proche qui est malade. Je ne parle pas de ces choses-là. Je parle de votre crainte chrétienne. Est-ce que vous avez une crainte chrétienne? Excusez-moi, mais moi j'ai des craintes chrétiennes. Ah, il m'arrive parfois de me dire, mais Seigneur, regarde où j'en suis aujourd'hui, regarde d'où je viens, et dans 5 ans, dans 10 ans, comment je serai devant ta face? Est-ce que je serai encore sur le chemin là, le chemin que tu as tracé pour moi? Bien des fois, peut-être comme crainte, je peux me retrouver à me dire, mais Seigneur, s'il arrivait vraiment quelque chose de terrible dans ma vie, dans ma famille, où en serais-je par rapport à toi? Comment je vivrais ce que je dis aujourd'hui être ma foi et mes promesses auxquelles je crois? Comment je vivrais ces choses-là? Hein, vous savez, je me dis, si moi je vivais dans un de ces pays où on torture les chrétiens, comment je vivrais ça? Hein, où je me dis, si, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est, vous savez, c'est ces choses qui sont dans ma chair, là, dans mon corps, et le monde qui m'entoure. Est-ce que un jour, un péché, une chose terrible ne va pas avoir victoire sur moi pour m'éloigner de toi? Je pense que c'est des craintes légitimes. Peut-être que on va voir qu'il y a réponse. Mais c'est pas pour rien quand même que dans le Notre Père, quand les disciples ont dit au Seigneur Jésus, comment devons-nous prier Dieu? Il a quand même introduit dans sa prière, ne nous laisse pas tomber en tentation et délivre-nous du mal. Donc, c'est qu'on peut tomber en tentation, et en plus qu'une fois tombé en tentation, on peut être délivré du mal. C'est pas pour rien, je crois, que le Seigneur a dit qu'il nous fallait prier comme ça. Mais le texte que nous lisons ici nous dit que c'est inutile d'avoir ces craintes. C'est inutile d'avoir ces craintes. Parce que, à celui qui peut, la première chose, c'est que ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de quelque chose. C'est celui qui peut, ce Dieu auquel on fait référence. Lui, il a le pouvoir de... Et je suis interpellé par le début de ce verset. Celui qui peut. Dieu est capable de. Dieu peut. Dieu sait. Dieu est capable de. J'ai envie de vous dire, pour 2013, mes frères et mes sœurs, mes amis, soyez confiants. Soyez confiants. N'ayez pas de ces craintes qui mettraient en péril votre salut, votre marche avec le Seigneur. Soyez confiants, parce que celui qui peut, dit le texte. Nourrissons-nous de cette assurance. Dieu a le pouvoir de me garder même au-delà de mes propres décisions, de mes propres chutes, de mes propres péchés, de mes propres manquements. Dieu a le pouvoir. Cela dépend de lui. Nourrissons-nous d'une réalité pareille. Quand j'ai envie de temps en temps de mettre en doute certaines choses, Dieu peut, Dieu est capable. Ça dépend de lui et non de moi. En fait, mon salut, on vient de le lire, de le chanter, mon salut dépend de ce que Dieu a fait pour moi et non pas de ce que j'ai fait pour lui. Il ne me sert à rien de prier 100 millions de fois le Notre Père en disant « Ne me laisse pas tomber en tentation et sauve-moi du mal, ne me laisse pas tomber en tentation » pour faire de moi quelqu'un de plus spirituel, de plus fort, parce que c'est ça qui va faire que je resterai sur la voie du Seigneur. Non, non, c'est de faire confiance à celui qui peut, celui qui peut. Dieu a pouvoir, Dieu est capable. Il peut nous préserver de toute chute. Waouh ! Nous préserver de toute chute. Hein, là, moi j'ai besoin d'aller un peu lire à certains endroits ce que ça veut dire, parce que me préserver de toute chute, ce n'est pas quelque chose que je vis au quotidien. Il peut me préserver de toute chute. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Dieu a pouvoir de me préserver de toute chute. De quoi on parle ici? De tous les péchés? On parle de toute chute, ça veut dire être tombé et ne plus se relever. Alors on pourrait dire les chutes irrémédiables, les chutes irrévocables, les chutes où tu ne te relèves pas, les chutes dont tu ne... De quoi parle-t-on de toute chute? Je pense que la parole de Dieu est quand même claire dans le nombre de textes qui font référence au péché des hommes dans les Épîtres. Je ne pense pas qu'il est question de dire ici que le Seigneur va garder de toute chute. Je crois qu'il est question ici d'autre chose. Les péchés, il y en a, il y en aura. Si je lis les épîtres qui sont adressées à toutes les églises, elles ne font que pointer le doigt sur des hommes, des femmes qui sont sauvés, qui appartiennent à Dieu, mais qui sont pécheurs. Et ceux qui ont écrit les épîtres les mettent en garde, les réconfortent et les amènent sur le chemin de la sanctification pour qu'avec l'aide du Christ, ils deviennent de plus en plus semblables à ce que Dieu veut faire d'eux. Mais il n'est pas question de voir dans les épîtres des églises et des hommes et des femmes qui vivent sans péché. On sait, c'est quoi se préserver de toute chute? J'ai vu que il faut voir cela comme un état, l'état d'être tombé. C'est-à-dire l'état d'être loin de Dieu, de ne plus être debout devant Dieu. Et ça, alors, on comprend mieux ce que veut dire l'expression « Il peut vous garder de toute chute ». Ça veut dire que, quelle que soit la chute, Quel que soit ce qui soit passé dans ta vie ou dans ma vie, quel que soit le terrain glissant sur lequel j'ai été entraîné, Dieu a le pouvoir de te redresser et de te garder devant lui. Dans ce sens-là, il faut prendre. Garder de toute chute comme d'un état. Tu as glissé, tu es tombé, mais c'était un état passager. Tu es réparé de cette chute-là. Et vous faire paraître. Vous faire paraître. Si, pendant cette année 2013, nous pouvions avoir cette assurance en chaque circonstance que nous allons passer, traverser, les circonstances qui mettent peut-être un peu en péril notre marche avec le Seigneur, notre foi, ou les circonstances de vie que nous allons vivre, si chaque fois nous pouvions nous dire, Dieu est celui qui peut nous faire paraître. C'est pas nous qui nous faisons paraître. C'est lui qui nous fait paraître. Et ce texte fait référence à ce que Dieu a commencé de faire et fera un jour nous faire paraître devant sa gloire. Nous élever jusqu'à sa gloire. C'est pas nous qui allons nous amener devant la gloire de Dieu. Vous savez, être devant la gloire de Dieu, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Hein, quand on lit ces textes, ces quelques hommes qui ont vécu ces expériences, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe qui est là devant ce temple, rempli de fumée, rempli de la robe de Dieu qui remplit tout, et les anges qui volent dans tous les sens et qui crient « Gloire à Dieu !» Et puis c'est tellement puissant qu'il y a tout qui commence à bouger, c'est le tremblement de terre, les portes bougent. Et là, Ésaïe qui est là, « Malheur à moi d'être ici, malheur à moi d'être ici, qu'est-ce que je fais ici ?» C'est pas rien d'être devant la gloire de Dieu. Eh bien le texte ce matin nous rappelle, tournez vos yeux vers ce Dieu puissant. C'est lui qui va nous faire paraître devant sa gloire. Devant les circonstances que nous allons vivre en 2013, si ces mots pouvaient être au fond de notre cœur, pas dans notre tête, au fond de notre cœur, il est en train de nous faire paraître bientôt devant sa gloire. Irréprochable, irréprochable. Que dit Ésaïe ? Il crie, mais je suis un homme impur qui vit dans un peuple impur, dont les lèvres sont impures, tout est impur. Il vous fera paraître irréprochable. Quel que soit le parcours, c'est lui qui peut, c'est lui qui a pouvoir, par le sang de Christ, de nous rendre irréprochables. Dans le mot ici, irréprochable, c'est presque un mot sacrificiel. Un sacrificiel par référence au sacrifice. En fait, quand on devait prendre un agneau sans tache, sans défaut, une vache sans tache, sans défaut, un pigeon sans tache, sans défaut, quand il fallait prendre un animal pur pour le sacrifice, le mot qu'on utilisait, c'est le mot qui est marqué ici. C'est le mot qu'on a traduit par irréprochable. Ça fait directement référence à quelque chose de purifié pour le sacrifice ou par le sacrifice. Évidemment que pour nous, ça fait référence au sacrifice du Christ. Celui qui peut vous préserver de toute chute, qui, quelle que soit la chose qui vous sera arrivée dans votre parcours, vous aura relevé parce que cela dépend de lui. Mon salut, notre salut, dépend de celui qui nous a sauvés. Il dépend uniquement de celui qui nous a sauvés. Nous faire paraître devant sa gloire irréprochable, et dans l'allégresse, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qui va se passer, c'est bon, c'est vrai que les Épîtres nous disent, soyez toujours joyeux, soyez dans la joie, mais c'est bon de se rappeler que nous sommes appelés à l'allégresse suprême un jour, lorsque, allégresse pour nous, lorsque subitement, l'objet de notre espérance, comme l'a évoqué Simon ce matin, deviendra réalité. L'objet de notre espérance, ce sera là, on sera là, on sera devant le trône du Très-Haut. On ne comprendra pas, on réalisera tout. Et quelle joie à ce moment-là de se dire que c'est fini. Fini de ce qui faisait mal ici, de ce qui était mortel ici, de ce qui rendait malade ici, de ce qui faisait souffrir ici, du péché d'ici. Quelle joie, allégresse. Nous sommes appelés à l'allégresse. Dans les moments où c'est dur pour nous en 2013, c'est bon de nous souvenir, nous sommes rappelés à cette dimension d'allégresse où nous serons dans l'allégresse et où aussi si tu as le texte dans Sophonie, tu peux le mettre. Moment d'allégresse pour Dieu. Dieu sera dans l'allégresse lorsque nous arriverons là-bas. Mes amis, quand nous vivons des expériences où nous nous sentons tellement indignes de Dieu, tellement loin de Dieu, mais quelle joie de repenser à des textes comme celui que nous lisons ici dans Sophonie 3:17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve et il fera de toi sa plus grande joie. Il est ce héros qui vient te sauver, te sauver du danger, de la destruction. Et qu'est-ce que ça lui fait? Il a quelque chose à te dire? Non. Il fait de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Même pas un reproche, même pas une remarque, rien du tout. Dans son amour, il garde le silence et il aura pour toi des transports d'allégresse. L'Éternel, ton Dieu, aura pour toi des transports d'allégresse. L'Éternel, ton Dieu, a pour toi des transports de joie et d'allégresse. Oh, puissions-nous nous souvenir de ça, frères et sœurs, lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque nous nous sentons tristes. L'Éternel, notre Dieu, a pour nous des transports d'allégresse. On peut remettre les versets 24 et 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Extraordinaire petit verset. On pourrait dire que c'est tout un livre de théologie, ça. C'est presque toute la théologie dans ces quelques mots. Oh, puissions-nous nous souvenir de celui qui peut nous préserver, qui a pouvoir en pensant à qui il est. Le texte commence dans le verset 25, Dieu seul. Souvenons-nous, comme on l'a rappelé ce matin, comme certains l'ont dit dans la prière ce matin, Dieu est unique. Dieu est unique. Hein, c'était conforme en Israël, c'était comme ça, par opposition à tout le polythéisme local, tout le polythéisme de l'époque. Dieu est unique. J'aime ici l'expression « notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Dieu est unique et il est notre Sauveur. Savez-vous, souvent dans les textes, nous lisons que Dieu est Seigneur et que Jésus est Sauveur. Ici, on lit que Dieu, qui est unique, est Sauveur par Jésus-Christ, qui est Seigneur. Quelle complémentarité, quelle interchangeabilité, ça se dit ça, je ne sais pas, c'est interchangeable en tout cas, entre Dieu Sauveur, Dieu Seigneur, Christ Sauveur, Christ Seigneur, un seul Dieu, à qui soit la gloire, à qui soit la gloire. C'est difficile à définir le mot gloire, je trouve. Moi, je n'ai pas fait comme Simon, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire, mais j'ai difficile à définir le mot gloire. Je pense à ceux qui ont de la richesse, du pouvoir, de la puissance. Hein, gloire, ça me fait penser à ces vedettes qu'on dit, hein, quand ils ont vendu 2 millions d'exemplaires d'un disque, ils ont le disque d'or, on dit, ils sont au fait de leur gloire. Ils sont au fait de leur gloire. Puissions-nous nous souvenir pendant 2013, au cours des moments difficiles, des moments où nous en aurons besoin, de quelle gloire on parle ici. Je trouve que la gloire s'associe à un certain poids. Ça marche souvent comme ça. Parce qu'il a beaucoup, parce que c'est très fastueux, parce que c'est plus ceci, encore plus cela. Il y a du poids, de la lourdeur, alors il y a beaucoup de gloire. Hein, quand tu vas faire tes courses et que tu mets de ton caddie dans ton coffre de ta voiture, déjà, ça fait du poids. Après, si tu dois lever ta voiture, c'est plus lourd. Après, si tu dois lever la maison dans laquelle tu as mis ta voiture dans le garage, c'est encore plus lourd. Après, si tu lèves ta rue, c'est encore plus lourd. Et la ville encore plus, et le pays encore plus, et le monde encore plus, et l'univers encore plus. Et si on met une notion de poids, on se rend compte que celui qui a créé toutes ces choses, quel poids de gloire, quel poids de gloire. majesté, force et puissance. À Dieu seul, la majesté, la force et la puissance. Ça c'est trois mots qui parlent du règne. C'est celui qui règne, c'est le régnant qui a la majesté, c'est le roi. Le roi règne et la majesté, ben, c'est le rôle du régnant. La force appartient aussi au régnant. La puissance appartient au régnant. La majesté, majesté. Oh, puissions-nous nous souvenir que celui qui a tout pouvoir, parce que notre nom est marqué sur sa main, dans toutes les circonstances de 2013, c'est lui, la majesté. On dit, dans les textes que nous lisons, dans la parole de Dieu, roi des rois, seigneur des seigneurs. Vous savez, on raconte que quand Louis XIV est mort, vous savez, c'était vraiment le mégalomaniaque. Il a fait faire plein de choses extraordinaires. Et quand il est mort, il avait exigé que toute la cathédrale de Notre-Dame à Paris soit entièrement, de haut en bas, d'avant en arrière, drapée de voiles noires. Et puis il avait dit, il faudra pas une seule lumière, il faudra mon cercueil au milieu et une petite bougie dessus pour éclairer là les milliers de personnes qui étaient là et toute Notre-Dame de Paris. Et on raconte que l'évêque qui a fait la cérémonie, quand il est arrivé, il est venu tout près du cercueil, il a soufflé la bougie et il a dit, Dieu seul est grand. Dieu seul est grand. Qu'est-ce que Louis XIV, avec tout ce qu'il a fait, et le grand voile tout noir qu'il a mis sur la cathédrale Notre-Dame, même si c'était quelque chose d'assez difficile, j'imagine, et qui avait mis sa petite bougie pour dire que lui, il était là, qu'est-ce que Louis XIV, frères et sœurs? Et qu'est-ce que les gens qui vont nous faire du mal pendant cette année? Qu'est-ce que les gens qui vont nous faire du tort pendant cette année? Qu'est-ce que les difficultés que nous allons rencontrer pendant cette année par rapport à la majesté de celui qui, lui seul, est grand, qui, lui seul, est Dieu? Force, force. Oh, frères et sœurs, j'aime à lui soit la force. De quelle force parle-t-on? À lui soit la force. Que réalisons-nous quand nous disons à Dieu soit la force? Puissions-nous avec notre cœur en 2013, lorsque nous serons seuls à seuls dans la prière avec le Seigneur, puissions-nous imaginer, concevoir la force de Dieu? Il y a dans un des psaumes, dans le psaume 115, au verset 3, il est dit, « Notre Dieu qui est dans les cieux, tout lui est permis. Il peut tout faire. » Le verset dit un peu, « Il peut tout faire. Il fait ce qu'il veut. » Notre Dieu qui règne dans les cieux fait tout ce qu'il veut. Et dans l'évangile de Luc, dans le premier chapitre, lorsque la jeune Marie apprend qu'elle va mettre au monde le Sauveur, le Seigneur lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand les hommes ont vu que le jeune homme riche, ça se passe pas trop bien dans le dialogue entre le jeune homme riche et Jésus, et que Jésus dit, alors, les autres sont interpellés et disent, mais alors qui va être sauvé? Qui va être sauvé? À Dieu, tout est possible, répond Jésus. C'est de cette force-là qu'on parle. De ce Dieu qui est dans les cieux et qui n'a aucune limite de force. Il fait tout ce qu'il veut. C'est de cette force-là qu'on parle. Du Dieu auquel rien n'est impossible. C'est de cette force-là qu'on parle. Du Dieu pour lequel tout est possible. Oh, frères et sœurs, si on pouvait dans nos prières se rappeler en permanence du Dieu auquel rien n'est impossible et du Dieu auquel tout est possible, ça nous donnerait de la force, ça nous donnerait du zèle, ça renforcerait notre espérance. Et puissance, puissance. Moi, j'avais dans ma traduction autorité, autorité. Puissance, autorité. J'aime bien autorité parce que autorité fait référence à la valeur. On vient de parler de la force. La force et la puissance, c'est un peu la même chose. Mais l'autorité, c'est la force morale. C'est la force de la décision. L'autorité, c'est moi qui décide et ça se fait. L'autorité, c'est je dis que ça c'est bien et c'est bien. Je dis que ça c'est mal et c'est mal. Ça, c'est l'autorité. Notre Dieu est celui qui a l'autorité. Combien c'est précieux de se souvenir que rien de ce qui nous entoure, de ce qui se fait, de ce que nous voyons, de ce que nous vivons, n'échappe au contrôle de Dieu et n'échappe à sa volonté. Permissif ou volontaire, mais si nous voyons ces choses-là, si nous vivons ces choses-là, c'est sous le contrôle de la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à la volonté de Dieu. Dieu a dit dans sa volonté, je choisirai un peuple et il les a prédestinés d'avant la fondation du monde. Son peuple a été choisi d'avant la fondation du monde. Dieu a dit, je créerai la terre selon sa volonté, il a créé la terre. Dieu a dit selon sa volonté, si ceci se passe, il y aura la chute. Et il y a eu la chute. Dieu a dit, je rachèterai le peuple, et il y a eu la rédemption. Dieu a dit, je jugerai les hommes, et le jugement viendra. Tout sera conforme à la volonté de Dieu. C'est vrai que souvent on dérape un peu avec ça. On a envie de dire, ah ben alors, fatalisme, hein, si quand même Dieu a tout décidé, si les élus sont déjà choisis, ils sont déjà connus, alors à quoi ça sert d'évangéliser, à quoi ça sert encore de faire quelque chose, à quoi ça sert? Non. Dans la volonté de Dieu, il y a plein de volonté. Mais la volonté finale, c'est que tout se passe comme Dieu veut. Mais il y a par exemple la volonté de ses lois. Si tu te jettes du dixième étage, ben tu vas mourir. Parce que Dieu, il a établi une loi qui fait que quand tu te laisses tomber, ben tu prends l'accélération G et que tu vas t'écraser comme une figue par terre. Donc, tu meurs. Ça fait partie d'une de ces lois. Mais il y a la volonté de Dieu dans son expression directe. Dieu qui vient, qui s'incarne pour nous parler. Dieu qui envoie des prophètes en leur faisant dire des choses. Dieu qui envoie des anges en disant, il faut libérer Pierre de la prison. Les interventions directes de Dieu parmi les hommes. Il y a la volonté de Dieu qui laisse le péché et le mal faire son chemin. Souvenez-vous du livre de Job. La volonté de Dieu qui laisse Dieu faire, qui laisse le monde évoluer dans son chemin avec le péché, avec le mal. Et c'est d'ailleurs tellement bien dans la volonté de Dieu que c'est cette manière de vivre du monde qui va faire qu'un jour l'iniquité suprême va être sur la terre, la grande apostasie va être sur la terre, et que c'est ça qui va faire que des hommes adoreront un faux Dieu, et que c'est ça qui va faire que Christ reviendra. Volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qui utilise les hommes. Il y a beaucoup de textes comme ça où on est quand même surpris dans la parole de Dieu. Finalement, Nabuchodonosor, quand il est venu prendre Jérusalem, est-ce que c'était sa volonté ou est-ce que c'est un homme qui avait ce projet dans la chair de poser ces actes-là et que Dieu a utilisé cela? Si vous voulez la réponse, vous lisez Jérémie. Quand le petit Joseph a été vendu par ses frères, est-ce que c'était la volonté de Dieu ou est-ce que c'était des hommes qui avaient de mauvaises pensées de faire quelque chose que Dieu a récupéré pour utiliser dans sa volonté et pour sauver plus tard le peuple de la famine? La volonté de Dieu, elle est sur plein et plein de domaines. Et nous ne comprendrons jamais rien à cela. Nous ne comprenons rien au livre de Job. C'est pas la peine d'essayer de chercher. C'est comme ça. À lui soit la majesté, la force et l'autorité. Nous ne comprendrons rien à ça. Par contre, nous restons libres, chacun, chacune, de marcher d'une certaine manière. Ça nous appartient. Dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. On l'a évoqué plusieurs fois ce matin, l'immuabilité de Dieu. Dieu qui ne change pas, Dieu qui reste le même. Ce Dieu-là, quelles que soient les circonstances encore, comme on l'a dit, quelqu'un l'a dit dans une prière en 2013, effectivement, ce Dieu qui ne change pas, qui reste le même, a toujours le même pouvoir de nous préserver de toute chute qui le séparerait définitivement de lui pour le faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Nous allons prier. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vrai qu'en relisant ces textes ce matin, nous voulons encore reconnaître et confesser que c'est vrai. Rien ne se fait sans ta volonté, ô Seigneur Dieu. Et nous voulons adorer avec humilité ces choses qui sont cachées. Nous ne voulons pas nous poser des questions qui nous dépassent, Seigneur. Mais nous voulons appliquer à notre vie, à notre usage personnel, cette promesse de l'Écriture. Oui, Seigneur Dieu, toutes choses te sont soumises. Tu veilles sur nous avec un soin si paternel que tu nous dis que même pas un seul de nos cheveux ne tombe de notre tête sans que toi tu ne le saches et sans que toi tu ne le permettes. Seigneur, parce que tu es si grand, parce que tu es souverain, parce que tu es tout puissant, je peux intercéder, je peux te faire confiance. Et Seigneur, je veux te demander que vraiment, fort de cette confiance que nous pouvons te faire, nous puissions tout au long de l'année à venir lever les yeux vers toi en disant, en proclamant encore, oui Seigneur, tu es notre rocher, tu es notre refuge Seigneur. Amen.